Premièrement, nous avons déjà été entendus l'année dernière, parce qu'on avait commencé à suivre cette crise dès ses débuts en 2015. Et donc, un certain nombre de recommandations qu'on a faites l'année dernière ont été tout à fait entendues. Donc, j'espère que les recommandations de ce rapport le seront également. On va le voir.
Vous demandez aux bailleurs de fonds et à d'autres partenaires du Burundi qui entretiennent une coopération bilatérale avec le Burundi de vérifier la neutralité politique et la fiabilité technique des acteurs non gouvernementaux qui pourraient recevoir de l'aide. Il y a des acteurs sur place au Burundi. Est-ce que vous voulez dire de ceux qui seraient proches du gouvernement ou proches de l'autre parti, l'opposition ?
Oui, c'est tout à fait ça. Les donateurs, notamment les donateurs européens, ont décidé il y a plusieurs mois de changer la façon dont ils allaient fournir de l'aide au Burundi. Ce qu'ils veulent faire, c'est ne plus passer par les organismes gouvernementaux et donc ils doivent passer par d'autres structures. Évidemment, on pense immédiatement aux structures de la société civile et par conséquent, pour faire ça, il faut s'assurer que ces structures sont neutres sur le plan politique et qu'elles ne sont pas des structures partisanes.
Et vous recommandez également le déploiement immédiat de plusieurs centaines d'observateurs des droits humains et de policiers internationaux armés. Ça a été aujourd'hui réitéré par l'Union africaine qui a fait le même appel. Mais l'Union africaine avait décidé récemment l'envoi de la Maprobu, mais on a reculé sur cette question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça va être possible?
La Maprobu était une initiative de l'Union africaine. Ce à quoi on fait référence dans notre rapport, c'est à ce qui est discuté par les Nations Unies depuis un certain temps. Et c'est une initiative qui est au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui est en débat. Donc, ce n'est pas la même organisation. Je pense que ce qui est très important à l'heure actuelle, c'est qu'il y a en effet un accord des membres du Conseil de sécurité sur l'idée de l'envoi de cette force de police et de ces observateurs des droits de l'homme, parce qu'il est très important de pouvoir savoir ce qui se passe réellement au Burundi. Vous avez vu qu'il y a d'une part, d'un côté, les déclarations du gouvernement burundais qui dit que, grosso modo, les choses vont bien au Burundi. Et puis, de l'autre côté, il y a des déclarations de l'opposition, etc. Donc, il est très important qu'un acteur neutre sur le terrain puisse établir la vérité et c'est tout à fait le rôle des Nations Unies.
Et sur l'accord d'Arusha, vous insistez sur l'inclusion de trois forces politiques, la coalition Sénared, l'opposition qui ne reconnaît pas le régime de Bujumbura et qui est en exil, le FNL, le CNDD-FDD, pour discuter des modifications nécessaires de l'accord de paix d'Arusha. Est-ce que c'est un accord insuffisant aujourd'hui?
Je crois que c'est un accord qui, aujourd'hui, d'une part, a été déjà très sérieusement remis en cause et qui risque de l'être encore plus dans le futur s'il y a un changement constitutionnel au Burundi. Je crois que c'est un accord qui est très critiqué par le parti au pouvoir. C'est un accord qui n'est plus respecté aujourd'hui. Et donc, il est nécessaire de le revisiter pour probablement en changer certains points, non pas bouleverser l'ensemble de l'économie de l'accord, mais se rendre compte que 16 ans après sa signature, c'est un accord qui a probablement besoin d'une actualisation.
La MISOM a été toujours servie au pouvoir de Bujumbura comme la survie dorante, selon certains experts. Vous demandez à l'Union européenne de changer les modalités de reversement des allocations des militaires, donc de ne plus faire passer cet argent aux mains du gouvernement. Et vous allez aussi très loin pour envisager le remplacement éventuel des forces burundaises en Somalie. Est-ce que vous pensez que ça peut résoudre les questions qu'on connaît dans les corps de défense et de sécurité?
Premièrement, il faut s'entendre sur les problèmes dont on parle dans les corps de défense et de sécurité. Le problème fondamental qu'on a vu ces derniers mois, ce sont les assassinats de personnel militaire qui ont lieu maintenant assez fréquemment au Burundi et qui montrent que l'institution militaire est extrêmement fragmentée, voire peut-être en train d'imploser de l'intérieur. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Les recommandations qu'on fait et dont vous avez parlé n'ont pas pour objet de résoudre le problème de la fragmentation très forte des forces de l'armée. Ça, c'est un problème politique et dont la solution ne se retrouvera qu'avec la solution de la crise actuelle. Mais les propositions dont vous avez parlé sont des propositions pour qu'on fait pour convaincre et mettre la pression sur le gouvernement burundais pour qu'il accepte d'entrer dans une discussion avec l'opposition, puisque depuis 5 mois, on attendait une réunion qui ne venait pas entre l'opposition et le gouvernement. Donc c'est dans ce cadre-là que ces propositions sont faites. Ce ne sont pas des propositions qui sont faites pour solutionner le problème militaire, qui n'est pas un problème militaire, mais qui est un problème politique.
La crise dure déjà une année. Est-ce que vous ne pensez pas que plus elle dure, plus elle devient impossible à résoudre pacifiquement?
Vous savez, on peut se dire ça, mais il faut se rappeler quand même l'histoire au Burundi et l'histoire un peu de toutes les guerres civiles. C'est qu'en règle générale, elle dure longtemps, mais c'est parce que elle dure parfois trop longtemps, les gens finissent par décider de les arrêter. On espère qu'au Burundi, on ne va pas répéter ce qui s'est passé de 1995 à 2000, et que comme les gens ont vécu cette période, aussi bien les responsables politiques actuels que les responsables de l'opposition, ils ont tous vécu déjà cette guerre civile, et donc on espère qu'au lieu de s'enfoncer et de s'enliser dans la violence, ils vont décider de négocier le plus tôt possible et non pas être dans une dynamique d'escalade qui a conduit à faire 300 000 morts entre 1995 et 2000.